J'ai entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de lait, de mythes et de poésie. Je vous présente Hot Milk, un roman de Deborah Levy, paru aux éditions du Sous-Sol en 2024. Hot Milk est traduit de l'anglais par Céline Leroy. Deborah Levy est connue pour ses pièces de théâtre, ses récits autobiographiques, dont le dernier tome, La position de la cuillère, a paru en France en 2024 également. Cette autobiographie donne de Deborah Levy l'image d'une femme libre, d'une femme indisciplinée, et c'est cette liberté qu'on retrouve dans ce roman à la fois étrange et hypnotique, un roman baigné dans un élément liquide dangereux et fécond. Au bout du compte, vous le verrez, il s'agira autant d'eau que de lait. Cette boisson réconfortante renvoie bien sûr à l'enfance, avec le lait chaud qui aide les enfants à s'endormir. Elle renvoie à la maternité, à l'allaitement. Et le lien avec la mère est central dans le roman. Sophia Papastergiadis est une jeune femme anglaise de 25 ans d'origine grecque. Elle se trouve avec sa mère Rose à Almeria, en Espagne, dans une clinique pour que Rose puisse guérir d'une étrange paralysie intermittente. On comprend vite que la mère de Sophia est en fait complètement hypochondriaque et qu'elle tyrannise sa fille. Sophia déclare « Mon amour pour ma mère est une hache, il blesse gravement ». Un des enjeux du roman sera pour Sophia de s'émanciper enfin de ce lien, mais aussi de remonter son histoire familiale. Sophia est anthropologue de formation et finalement elle devient l'anthropologue de sa propre famille. Elle tente, en Espagne puis en Grèce, de remonter le cours de son histoire personnelle et de son histoire familiale. Alors n'allez pas imaginer un roman d'apprentissage avec un aspect didactique. L'autrice s'en défend dans une interview donnée à France Culture dans les Midis de la Culture le 21 mai 2024. Voici ce qu'elle dit. « J'ai tendance à résister à l'idée que c'était un apprentissage parce que je n'ai pas très envie d'écrire des livres qui soient des livres éducatifs. Pour moi, c'est plutôt une forme de révélation à laquelle Sophia résiste, mais qui se produit néanmoins. » Je trouve que le mot « révélation » est très juste, avec son aspect religieux, sacré. Et l'écriture de Deborah Levy tisse les fils du passé et du présent dans un texte qui mélange le mythe et le prosaïque, ce qui est perceptible dès l'incipit que je vais vous lire. « Aujourd'hui, j'ai fait tomber mon ordinateur portable sur le sol en béton d'un bar construit sur la plage. Calé sous mon bras, le portable a glissé de son étui en mousse, pareil à une enveloppe, et a atterri côté écran. La page numérique est fissurée, mais fonctionne toujours, c'est déjà ça. Mon ordinateur contient toute ma vie, et en sait plus sur moi que n'importe qui d'autre. Ce que je veux dire, c'est que s'il vole en éclats, alors moi aussi. L'écran de veille représente une nuit violette où se pressent étoiles, constellations, et bien sûr la Voie lactée, dont le nom vient du latin classique « lactea ». Il y a des années de ça, ma mère m'a dit que je devais écrire Voie lactée comme ceci, Galaxias Cuclos. Et qu'Aristote observait ce disque laiteux depuis la Chalcidique, à 55 km à l'est de Thessalonique, où est né mon père. La plus vieille étoile a 13 milliards d'années, mais celles de mon écran de veille ont 2 ans, et sont made in China. Tout cet univers est désormais fissuré. La Voie lactée renvoie à la fois au lait maternel et aux origines grecques du père, la Grèce, un beau pays pour remonter aux mythes et aussi aux tragédies familiales. Mais là encore, l'autrice entremêle les mythes et les symboles à la réalité contemporaine, puisqu'elle évoque par exemple la dette grecque et la paupérisation de la population. Mais la dette, c'est également celle que le père de Sophia peut avoir envers cette fille qu'il a abandonnée. La révélation se fait aussi au travers de la force du rêve. Et de nombreux passages du roman peuvent donner l'impression d'avoir été rêvés, comme celui-ci. Je suis loin du rivage, mais pas assez perdue. Je dois rentrer à la maison, mais n'ai nulle part où aller qui m'appartienne. Pas de travail, pas d'argent, personne pour m'aimer et accueillir mon retour. Je me remets sur le ventre, et c'est là que je les aperçois, les méduses, lentes et tranquilles. Pareil à des vaisseaux spatiaux, délicates et dangereuses. J'éprouve une douleur violente, brûlante, juste sous mon épaule gauche, et je commence à regagner le rivage. Alors qu'elle me pique encore et encore, j'ai l'impression d'être écorchée vive. Je trouve saisissante la vision de cette eau qui charrie à la fois la vie et la mort, et le récit de ce passage pourrait donner l'impression d'un rêve raconté à un psychanalyste. D'ailleurs, le docteur Gomez, qui dirige la clinique dans laquelle se trouve la mère de Sophia, peut évoquer un psychanalyste, à moins, et c'est aussi possible, qu'il ne s'agisse tout simplement d'un dangereux charlatan. Rien n'est certain dans l'univers instable du roman de Deborah Levy. Malgré cette incertitude, cette labilité des éléments et des émotions, une figure persiste, celle des méduses. Ou alors de la méduse, la gorgone méduse. La mer Méditerranée charrie des méduses aux filaments brûlants qui blessent le corps de Sophia. Cette brûlure, c'est également celle du désir, qu'elle ressent pour l'étudiant qui la soigne de ses piqûres, ou encore du désir pour une curieuse femme, la belle Ingrid Bauer, qu'elle célèbre dans cette étrange liste. J'aime sa façon de retirer sa ceinture lourdement brodée, sa façon d'aimer son corps, ses pieds nus couverts de poussière rouge, le bijou dans son nombril, pareil à un lac, et ma tête qui repose tout près, le présent qui est plus mystérieux que le passé, sa façon de changer de position, pareil à une feuille qui tournoie dans le vent. Depuis la fenêtre protégée par des barreaux, j'aperçois un grand cactus, ses six bras verts alourdis de figues de Barbarie. Ça me rappelle l'époque où je faisais signe à quelqu'un qui n'était pas là depuis un escalier. Mais ce souvenir s'estompe parce que je vais ailleurs, peut-être vers un autre pays où régnerait Ingrid, dont le corps est long et résistant comme une autobahn. La jeune femme blonde d'origine allemande est vêtue de chaussures d'homme, puis de hautes spartiates argentées. Elle est montée sur un cheval, elle est aussi chasseresse à l'occasion. Elle rappelle aussi bien la figure de la Valkyrie que celle de l'Amazone. Et devant elle, Sophia est terrifiée par son propre désir, en même temps que ce désir effraie également Ingrid, qui traite Sophia de monstre. Sophia, dont les boucles entremêlées, rappelle la chevelure pleine de serpents de la Gorgone Méduse. J'aime beaucoup ces passages sur le désir qui prennent des accents poétiques. Je vous cite ce bel aphorisme, une phrase que Sophia dit à Ingrid. « La flèche de ton désir se fichera dans mon cœur. » Et puis, des strophes émergent du texte en prose. Écoutez par exemple la description d'Ingrid casquée à cheval. Un don tel que l'amour n'est jamais gratuit. Bleu août. Le bleu est ma peur de chuter, d'échouer, d'aimer. Le bleu est le ciel d'août à Almeria. Son casque lui tombe sur les yeux. Le bleu est ses larmes et la difficulté à vivre dans toutes les dimensions, entre l'oubli et le souvenir. C'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman de Deborah Levy, l'oscillation entre le flot d'une prose puissante et le jaillissement de la parole poétique. Je vous conseille donc cet étrange et beau roman de Deborah Levy, Hot Milk, paru aux éditions du Sous-Sol en 2024. Et puis, vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.